BPM, l'association de la semaine.
Bonjour à tous, bienvenue sur BPM si vous venez de nous rejoindre. C'est enfin l'heure de votre émission, l'association de la semaine. Et cette semaine, eh bien, nous recevons la compagnie des rêves indociles avec Esther Bastendorf. Bonjour Esther, comment allez-vous déjà ?
Bonjour Robin, je vais très bien, merci.
Merci d'avoir accepté notre invitation, merci de revenir faire un petit tour du côté de la radio. Pour nos auditeurs, première question, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Qui êtes-vous pour nos auditeurs ?
Oui, bah, je suis donc Esther Bastendorf, je suis comédienne, metteuse en scène, enseignante de théâtre et aussi clown, voilà. Je suis la directrice artistique de la compagnie Les Rêves Indociles qui est basée à Vernon et qui existe depuis 2018. Voilà, une compagnie de théâtre, une compagnie de théâtre.
Plusieurs casquettes, vous l'avez dit. Déjà, je m'intéresse un peu sur la casquette de comédienne. Cet amour pour la comédie, pour le théâtre, ça vous vient d'où ?
Ça me vient de mes 14 ans au collège. Deux comédiens sont venus faire une intervention dans mon collège toute l'année. Voilà, on a eu la chance de travailler avec deux comédiens professionnels de la compagnie du Théâtre du Frêne. C'était Alain Baptiste et Alain Farès. Et on a travaillé sur la pièce Antigone de Jean Anouilh. Et j'ai eu une révélation complète. Voilà, de ce jour-là, je suis tombée amoureuse du théâtre. Il s'est passé quelque chose et j'ai enfin pu devenir moi-même grâce à ce personnage. Donc ensuite, voilà, ça n'est plus jamais parti.
Ça vous a permis de prendre confiance en vous de...
Oui, j'étais une enfant extrêmement timide. J'osais à peine parler. J'osais même pas demander une baguette de pain chez le boulanger. C'était la mission impossible pour moi.
Ouais.
Donc, je parlais très peu. Et le théâtre m'a permis de me révéler, de me rendre compte qu'on pouvait être entendu sur une scène de théâtre et que c'était un endroit où on pouvait prendre la parole. Et ça m'a sauvée, clairement.
Du coup, aujourd'hui, ça va, on arrive à demander le pain.
Oui, ça va beaucoup, beaucoup mieux. En fait, voilà, c'est ce que je dis souvent à mes élèves qui sont souvent timides, hein, qui viennent faire du théâtre pour se débarrasser, entre guillemets, de la timidité. Mais en fait, on finit par l'apprivoiser et ça... Et en fait, la timidité, c'est pas une fatalité et on s'en sort très bien. On peut même jouer au théâtre.
Mais du coup, c'est un peu paradoxal de réussir à sortir de ce côté timidité en allant sur scène et en parlant devant du monde. Ça peut faire peur.
Ça peut faire peur, mais en fait, ça empêche d'avoir des frustrations parce que c'est pas parce qu'on est timide qu'on a rien à dire. Et au contraire, on a l'impression qu'on n'est pas entendu. Donc en fait, de pouvoir endosser un autre personnage, incarner un autre personnage et dire des choses, transmettre ses émotions à travers un autre personnage, bah, ça permet finalement d'être soi-même. C'est un peu paradoxal, mais c'est clairement moi ce que je ressens. Et puis en plus, prendre du plaisir. Et ça, c'est le plus important, quoi.
Découverte donc du théâtre au collège et du coup, j'imagine que derrière, ça s'est plus arrêté, vous avez continué.
Oui, alors j'ai continué, mais c'était un peu difficile pour moi d'assumer de vouloir être comédienne. On avait prévu d'autres choses pour moi. J'étais plutôt bonne à l'école, donc faire des grandes études, etc. Donc j'ai quand même continué mes études. J'ai fait du théâtre de manière amateur, j'ai pris des cours. Et puis, je suis allée à l'université, j'ai passé une maîtrise d'histoire culturelle sur le théâtre populaire. J'ai quand même choisi un sujet sur le théâtre. Et puis ensuite, j'ai décidé de devenir comédienne. Donc en effet, j'ai fait une école qui amenait à devenir professionnelle. Et puis, je me suis formée, et j'ai assumé mon choix. Mais j'étais déjà assez âgée, entre guillemets, j'avais déjà 23 ans. Voilà.
Ça va.
Ça allait encore, mais voilà.
Mais du coup, quand on arrive à l'école... Qu'est-ce qu'on vous apprend ? Parce que du coup, vous aviez quand même une certaine expérience en tant qu'amateur. De passer d'amateur à professionnel, c'est quoi le gap ?
Bah, déjà, c'est beaucoup plus de travail, c'est tous les jours. Donc, un gros, gros engagement et on ne fait plus que ça. Et puis, c'est aussi apprendre tout le répertoire des scènes classiques, des scènes contemporaines. S'essayer à différents rôles, à différentes techniques aussi. Il y avait aussi s'initier au chant, à la danse, enfin voilà, de compléter aussi la formation, faire du clown, faire de l'improvisation. Il y a énormément de choses différentes au sein du théâtre, des techniques différentes. Donc ça permet d'aborder tout ça et puis de se créer aussi son identité et de trouver à l'intérieur de tout ça qu'est-ce qu'on a envie de jouer, qu'est-ce qu'on a envie de défendre, les textes qu'on a envie de défendre. Et c'est vrai que très vite, moi ensuite, j'ai tout de suite monté une compagnie en sortant de l'école parce que j'avais envie de dire des choses, de choisir des textes et de faire de la mise en scène. de pas uniquement entre guillemets être comédienne, mais aussi voilà, choisir moi-même, diriger moi-même et faire les choses par moi-même.
L'idée, c'est de pouvoir goûter à tout et après de savoir ce qui nous attire, nous intéresse.
Oui,
vraiment.
Et puis se former en fait. Hein, c'est vraiment de la technique, travailler. Donc ce qui est obligatoire, voilà. Donc ça permet ça aussi.
Au-delà de la mise en scène, de l'écriture, etc., que vous pouvez réaliser régulièrement, c'est quoi le genre de théâtre, le genre de jeu que vous préférez faire en tout cas?
Alors moi, je suis beaucoup dans... C'est vrai que j'aime beaucoup les auteurs contemporains, les auteurs vivants, parce qu'ils nous parlent de la société actuellement. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup mis l'accent là-dessus. Et puis c'est vrai qu'en tant que directrice de compagnie, ou même à l'époque, quand j'étais encore à Paris, j'ai monté des pièces d'auteurs vivants, ce qui m'a permis de les rencontrer. J'avais vraiment envie de travailler un peu en collaboration avec les auteurs et les autrices. Donc c'est vrai que c'est ça qui m'anime tout particulièrement. Après, j'ai rien du tout contre le théâtre classique. Au contraire, hein, c'est notre base. Donc c'est vrai que c'est bien de connaître ça. Après, je recherche aussi quelque chose de très épuré et surtout de transmettre l'émotion sans jamais en faire trop et trouver la justesse. Donc même quand j'enseigne auprès de mes élèves, que ce soit des petits ou des adultes ou des adolescents, c'est d'essayer de trouver leur vérité et leur justesse à eux. Voilà, que quand on écoute du théâtre, on n'ait pas l'impression que ce soit récité, mais que ce soit la vie qui est en train de se jouer devant soi.
Il y a tout ce côté très humain, du coup, avec la volonté de rencontrer donc, notamment les artistes contemporains et aussi ce côté humain relationnel avec les élèves qui est primordial.
Ah bah c'est essentiel, le théâtre c'est ça, hein. C'est vraiment le lien avec l'autre, apprendre à être soi-même, se découvrir soi-même, découvrir l'autre, connaître ses qualités, ses défauts, ses différences, les accepter, faire avec, viser des objectifs communs. Et vraiment ce qui est très important pour moi, c'est le sens du collectif. Et je trouve de plus en plus, parce qu'il y a de moins en moins dans la société de collectif et de solidarité. En tout cas, ce sont pas les valeurs qui sont prônées, on va dire. Il y a évidemment des gens qui le sont, mais je trouve que du coup, le théâtre, c'est un espace qui permet ça. Voilà, de s'accepter les uns les autres, de faire en sorte que on avance dans la même direction et qu'on se réalise, qu'on réalise quelque chose tous ensemble. Et c'est très très fort les liens qui peuvent se lier. Et s'unir à même des gens totalement différents qui, en dehors de ce cadre-là, peut-être ne se seraient peut-être jamais adressé la parole.
Ouais.
Donc ça, c'est très fort, c'est ce que j'apprécie dans les cours.
Question peut-être un peu compliquée, c'est quoi un bon comédien ? Vous parliez notamment du sens du collectif, on travaille tous ensemble, c'est comme un sport collectif au final.
Oui, c'est ça, c'est prendre conscience de l'autre et de soi-même. c'est s'affirmer, mais je crois qu'un bon comédien, à partir du moment où il a fait tout son boulot, apprendre le texte, se sentir à l'aise, etc., c'est quand il prend du plaisir sur scène. C'est vraiment qu'il s'éclate, qu'il donne tout, qu'il est généreux et qui prend du plaisir. Le public le ressent.
Oui, ce que j'allais dire, ça se ressent très facilement.
Oui, ça se ressent tout de suite et il y a une alchimie, une harmonie après avec le groupe et ça file tout seul. Donc ensuite... Ça fait un spectacle réussi, même s'il y a des petits couacs, des petits trucs, mais c'est pas ça en fait l'important. C'est pas la réussite technique, on va dire, mais c'est vraiment le plaisir qui est pris sur scène et de se lâcher, pouvoir se lâcher pour prendre du plaisir.
Et inversement, malheureusement, enfin, on le sent à des moments, des personnes très stressées qui ont du mal à tout lâcher. Le public le ressent aussi assez facilement, mais souvent le public a le regard de on a envie de t'aider, mais on peut rien faire. C'est pas un regard méchant ou jugeur.
Bah c'est pour ça que c'est très important pour moi. J'en vois jamais mes élèves, comme on dit, au casse-pipe. Donc voilà, c'est vraiment faire en sorte qu'ils soient prêts. Le stress, le trac, c'est normal, ça fait partie du truc. Et c'est ça aussi qui décuple le plaisir parce qu'on dépasse ça.
Oui, il y a les 15-20 minutes avant la pièce qui sont très durs à vivre, mais une fois qu'on est parti...
A priori, une fois qu'on est parti, tout se passe toujours très très bien. Ouais. Et on a envie d'y retourner une fois que c'est terminé.
Ouais, à peine donc, fini.
Voilà.
Mais j'imagine que le trac, le stress, c'est quelque chose qui reste. Même après de nombreuses années, on aura toujours un moment.
Alors après, ça dépend des gens. Moi, je suis une grosse traqueuse, très très grosse traqueuse. J'ai appris à gérer mon trac. Mais il y a aussi ce rapport au plaisir et à juste vouloir être là et qui permettent d'atténuer aussi, de pas se mettre d'enjeux, parce qu'en fait, il n'y a pas d'enjeux. Mmh. À part ceux qu'on se donne ou qu'on s'impose soi-même, mais finalement, il n'y a pas d'enjeux. Donc, une fois qu'on a compris ça et qu'on est dans le fait de donner, de vouloir partager quelque chose avec sincérité, le trac, il disparaît.
Pour revenir sur une autre casquette, là, on sort du cadre de la compagnie des rêves indociles. Vous, vous disiez être clown. Vous intervenez du coup à Elbeuf dans un hôpital dans le service pédiatrique.
Oui, tout à fait. J'ai la chance de travailler avec l'association Les Petites Mains, avec Jérôme Revel et Julie Cailleux. On est trois clowns qui allons régulièrement au service pédiatrique de l'hôpital. Ça fait 2 ans, donc c'est tout nouveau pour moi, c'est une nouvelle casquette. Je me suis formée au clown depuis de nombreuses années, mais là c'est très spécifique. On vient une fois par semaine, on rencontre évidemment, on a une petite transmission avec le personnel soignant pour connaître un peu de manière succincte, mais un peu les profils des différents enfants qui sont présents. Et ensuite, on parade dans le couloir en faisant de la musique, en chantant. Et ensuite, individuellement, on rentre dans chaque chambre, on demande l'autorisation aux enfants de rentrer et on essaye de développer une relation avec eux, évidemment, de les faire rire. C'est l'objectif.
Ouais, l'idée, c'est de sortir du quotidien, de passer un bon moment.
Ouais, d'oublier un peu les soucis. Voilà, d'oublier les soucis, les problèmes de santé, etc. Et d'avoir une petite bulle où on fait les idiots, on fait les clowns et les enfants rient, ou les parents aussi. Et c'est d'avoir ce petit échange qui est une petite bulle qui fait du bien. Voilà.
Qui fait du bien à tout le monde même, j'imagine. Aux clowns aussi.
Oui, tout à fait.
Moi, c'est un bon moment comme ça.
Je suis très, très heureuse de pouvoir faire ça régulièrement. Et c'est très important, en fait. Voilà, je me sens... C'est un peu bête, mais voilà, je me sens utile et d'avoir cet échange avec les enfants, c'est très touchant.
Mais du coup, j'imagine que avec ce rôle de clown, on a vraiment ce côté la création de base, puisqu'on arrive, on doit toujours improviser en fait.
Oui, c'est ça. On vient avec rien. Alors on a nos petites astuces, nos petites blagues dans la tête,
des petits gadgets.
On les utilise pas souvent au final, parce qu'en fait ce qui compte, c'est vraiment ce qu'on ressent de l'enfant. Et ce que lui, l'idée c'est que lui dirige un peu l'improvisation sans s'en rendre compte, mais voilà, il manifeste des choses, etc. Et ensuite on rentre dans son jeu à lui. C'est vraiment une relation où l'enfant est au centre du moment. C'est lui, donc il peut se transformer en ce qu'il veut. Avec de la magie, tout est possible de toute façon au théâtre avec le clown. Il peut me punir, m'enfermer dans les toilettes parce que j'ai dit des bêtises. Voilà, tout est possible à partir du moment où voilà, il prend le pouvoir donc ça reste évidemment toujours très drôle et il se rend compte que c'est lui qui décide. On lui donne une baguette magique et il transforme tout ce qu'il veut. Donc
c'est un peu le rêve pour un enfant.
Oui, exactement. Donc on sait très bien que ça fonctionne ce principe-là. Donc toujours très bien.
Pour revenir du coup sur la compagnie, sur les rêves indociles, vous disiez donc être directrice artistique, pardon. C'est quoi le rôle d'une directrice artistique dans une compagnie ?
Alors déjà, je m'occupe de beaucoup de choses administratives, donc c'est la gestion. Je suis aidée d'une administratrice, mais voilà, c'est un peu gérer tout. Donc ce soit les finances, mais aussi les projets, de donner une direction artistique au projet. Que ce soit pas des choses incohérentes, donc garder une certaine cohérence, certaines valeurs qu'on souhaite défendre dans la compagnie. Et puis aussi, on en a déjà parlé, mais moi, au sein de c'est une compagnie de théâtre, mais avec toujours de la musique. Donc, je travaille en collaboration avec Hugues Tabarnouval, qui est musicien, compositeur, saxophoniste. Et donc, ensemble, il y a de toute façon l'importance de la musique. Donc, je pourrais pas faire un projet où il n'y a pas de musique. Il y a aussi une recherche de qualité, certaines valeurs. Donc c'est veiller un peu à tout ça, à la direction de tout ça, et faire en sorte que la compagnie s'agrandisse, se développe. Donc c'est en gros c'est ça le rôle. Puis d'aller chercher, de monter des productions, de chercher des financements, de se faire connaître. Donc c'est beaucoup beaucoup de travail.
ça vous vient d'où cette volonté justement d'explorer le lien entre théâtre et musique? Comme vous l'avez dit, avec le travail avec Hugues Tabarnouval, ça vous est tout de suite venu quand vous avez créé Les Rêves Indociles en 2018.
Ah, c'est beaucoup plus vieux que ça. En fait, moi, j'ai commencé la musique quand j'avais 6 ans au conservatoire. J'ai fait 20 ans de piano.
Donc, le premier amour, c'est la musique avant le théâtre.
Oui, exactement. Oui, c'est vrai, la musique, c'est vrai. J'ai commencé en premier la musique et je continue encore maintenant. Donc, je pense que ça fait... ça fait 40 ans, on va dire. Voilà, ça fait 40 ans que je fais de la musique.
D'accord.
Donc, et ça continue encore maintenant,
le
chant.
C'était une suite logique, en fait, dès le moment où vous avez décidé de lancer la compagnie.
Oui, en fait, j'avais encore jamais fait le lien jusque-là entre la comédienne et la musicienne, on va dire.
Okay.
Donc, je faisais de la musique à côté, je faisais du chant, du piano, et puis j'étais comédienne. Donc la musique était toujours importante dans mes pièces, dans mes mises en scène, mais j'avais pas fait le lien avec moi qui pouvait en faire. Et je me suis rendu compte que voilà, ça apportait énormément. Donc je me suis remise au piano. Dans par exemple l'ancienne pièce Les Vivants et les Morts, j'accompagnais au piano, je chantais aussi. Et donc là maintenant, je peux plus faire autrement que même jouer d'un instrument ou chanter même moi en tant que comédienne, enfin ça fait complètement. Et puis par rapport au clown par exemple, là je fais du ukulélé depuis un an, donc je viens avec le ukulélé à l'hôpital. Je me suis mise à l'accordéon, je fais de l'accordéon depuis 2 ans aussi, enfin voilà, donc c'est complètement imbriqué, c'est extrêmement important, c'est 2 disciplines très différentes. La musique c'est très ingrat, faut travailler tous les jours,
ouais.
Faut une technique très précise et donc ça apporte vachement de rigueur.
Et on l'entend tout de suite quand une note est ratée.
Ah oui, une note ou même un son, c'est pas toujours très beau, donc ça nécessite vraiment un travail, un acharnement, voilà, il y a ça au théâtre, mais c'est pas pareil, c'est pas du tout pareil, donc c'est bien, moi cette rigueur-là est vraiment importante, et je trouve que même, bon évidemment, dans une pièce de théâtre, une musique qui est jouée en scène, qui est composée exprès, ça donne de l'âme, ça renforce les émotions, enfin... C'est pour moi c'est pas possible sans ça, ça me paraît pas possible, c'est tellement imbriqué que voilà, mais maintenant c'est évident, voilà, c'est évident depuis quelques années, mais ça l'a pas toujours été.
Du coup ça fait qu'on se rapproche aussi de plus en plus à ce qu'on peut avoir au cinéma avec des bandes son réalisées spécialement qui permettent de faire vivre vraiment la scène, le moment,
le rapport à l'image, voilà, la musique et le rapport à l'image est vraiment très très importante. Moi j'ai toujours aimé Hugues Tabarnouval, il est compositeur de musique de film, hein, il a beaucoup travaillé à l'image aussi. J'ai toujours aimé, j'ai toujours écouté des musiques dans les films. C'est toujours presque des fois je retenais plus la musique que ce que j'avais vu en fait. Enfin c'est vraiment essentiel quoi.
On peut citer des films comme Jurassic Park où on retient forcément la musique.
Oui, c'est ça. Ou tous les films d'Almodovar où moi voilà, j'étais complètement fan, j'achetais toujours les BO. J'écoutais tout de suite les BO pour me replonger dans l'univers. Enfin voilà, et je trouve de plus en plus, en tout cas au théâtre, il y a ce rapport-là de toute façon à la musique. Même les comédiens sont plusieurs casquettes. Et je trouve ça super, en fait, ce côté transversal où il n'y a plus de frontières entre les différentes disciplines. Moi, c'est ce que je cherche, que ce soit vraiment pour eux et qu'on soit presque capable d'un peu tout faire. Moi, récemment, j'ai vu un super spectacle. Pardon pour le gros mot, c'est le titre du spectacle qui s'appelle « Niquer la fatalité » d'Estelle Meyer. Mmh. Et elle chante, il y avait 2 musiciens sur scène et elle est comédienne, elle est incroyable. Et franchement, voilà, moi, c'est tout ce que j'adore au théâtre, de voir ça, de passer de l'un à l'autre du texte, au texte chanté. Voilà, c'est vraiment une recherche qu'on continue au sein de la compagnie.
Parmi ce que vous pouvez faire au sein de la compagnie, vous êtes en plein travail actuellement sur... alors du coup, c'est pas une adaptation, mais vraiment une écriture autour du récit de vie de Jacqueline Pecker, notamment avec le livre de Gaël Bertruc, pardon, La Toile Cirée. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous lancer dans cette nouvelle aventure ?
Alors en fait, c'est arrivé à un moment où j'étais un peu dans un creux créatif, on va dire. J'avais pas de désir particulier, et c'est vrai que une personne avec qui je travaillais à l'époque, je faisais des ateliers d'écriture à la médiathèque à Vernon, Nathalie Claudel, m'a offert le livre de Gaël Bertruc qui raconte la vie de Jacqueline Pecker. Et Jacqueline Pecker est une amie de Nathalie. J'ai dévoré ce livre en 2 jours, j'ai beaucoup pleuré, enfin ça m'a bouleversée. La lecture de l'histoire de Jacqueline Pecker m'a bouleversée.
Pour rappel pour nos auditeurs, une survivante de la rafle du Veldiv.
Oui, enfin elle a été juive, et sa maman l'a sauvée pendant la guerre parce qu'elle l'a cachée dans une ferme. Donc elle est restée 3 ans dans une ferme cachée. elle a réappris ensuite, elle a retrouvé sa mère et sa grand-mère, mais elle a perdu son oncle, son grand-père, son père a été déporté, et donc elle a refait sa vie à 9 ans, elle savait ni lire ni écrire, et elle a eu 1000 vies en une, elle a traversé tout le 20e siècle avec ses drames et ses joies aussi. C'est une femme très libre, pionnière. Elle a été l'une des premières femmes vétérinaires en France, en plus homéopathe et sur les médecines naturelles. Elle a ouvert vraiment plein de portes. Elle a été PDG. Elle a chanté dans les cabarets, à l'Écluse, au Lapin Agile, des chansons de comique troupier, de tout. Donc, elle a une vie... c'est une femme pleine d'énergie. Elle a 88 ans aujourd'hui. Elle est vraiment singulière et elle me guide, en fait. Elle est comme un phare pour moi. Elle a un courage dingue, une force de résilience très impressionnante. Et donc, c'est ce que j'ai ressenti dans le livre, qui est très bien écrit pour ça, parce qu'on entend la voix de Jacqueline. Et ensuite, j'ai fait une lecture ici à la médiathèque le 8 mars dernier. Elle était présente. C'est là qu'on s'est rencontrés la première fois, où elle m'a entendu raconter sa vie. Donc, c'était très étrange comme moment, parce qu'elle a entendu une comédienne qu'elle n'avait jamais vue, jamais entendue, en train de raconter sa propre vie. Donc ça a été très puissant pour elle et pour moi. Elle était très émue, moi aussi. Et puis, il s'est passé quelque chose, parce qu'elle est très différente de moi. J'ai eu envie de l'incarner. Donc on a continué avec... Donc je travaille avec Aurélien Noël, qui est un formidable accordéoniste. J'ai une grande chance de travailler avec lui. On a fait cette lecture. Donc on a continué la lecture de cette toile cirée, mais Jacqueline m'habite, en fait. La question pourquoi, je ne sais pas encore, en fait. C'est un des sujets de la pièce que je viens de terminer d'écrire. Il y avait quelque chose d'urgent pour moi de transmettre l'histoire de Jacqueline, qui n'est pas la mienne, c'est pas mon histoire, c'est pas l'histoire de ma famille, mais c'est comme si ça l'était. Il y a quelque chose, je saurais pas dire pourquoi, je suis en train de chercher. Ouais. Mais il y a cette urgence pour moi de raconter son histoire au plateau, d'incarner. Donc là, j'ai écrit le texte. Je me suis mis dans la tête de sa maman, Rose, dans la tête de sa grand-mère, Babouchka, et dans sa tête à elle. Donc j'ai inventé des choses. Je serai pas Jacqueline, mais je serai une Jacqueline. Ouais. Voilà. Et la pièce s'appelle Jamais je n'aurais imaginé être une femme exceptionnelle.
Et du coup, on devrait la retrouver à partir de l'année prochaine. Là, l'écriture, comme vous l'avez dit, vient d'être terminée. On va rentrer dans toute la phase de préparation, de répétition, jusqu'à monter sur scène l'année prochaine.
Oui, exactement. Là, je suis dans la phase production, recherche de financement et de lieux de diffusion, et aussi de répétition. On continue en juillet ici au théâtre Yolande Moreau, qui nous soutient, qui nous coproduit SNA. Et puis en octobre aussi, on a 2 semaines de résidence au Moulin de l'Hydre et au théâtre Mondori à Barentin. Et puis on aura une nouvelle semaine au premier trimestre ici aussi au théâtre Yolande Moreau, et on jouera ensuite aussi au Moulin à Louviers. Voilà, donc on a quelques dates de prévues au premier trimestre 2026. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à répéter, entre guillemets.
On est sur la fin d'émission. En quelques mots, vous vous proposez donc au niveau des ateliers théâtre, cours adolescents, cours adultes et des ateliers d'écriture aussi une fois par mois.
Oui, exactement. Voilà, adultes et adolescents, ateliers d'écriture une fois par mois, ateliers d'écriture créative. Et puis je propose aussi, je proposais des stages adultes sur une journée. Pour un peu, parce que tout le monde ne peut pas s'engager sur une année, donc j'ai eu plusieurs demandes, donc je vais proposer ça certainement très bientôt, là, au printemps. Et puis, des stages aussi pour les enfants, comme je fais plus de cours pour les plus jeunes, je vais proposer des stages pour les enfants de primaire, les 7-10 ans, aux prochaines vacances et les vacances de cet été.
Pour nos auditeurs qui souhaiteraient vous contacter, retrouver... Les rêves indociles, avoir toutes les informations nécessaires, on vous retrouve facilement sur internet.
Oui, il suffit de taper Les rêves indociles, théâtre, et puis vous tombez sur le site internet.
Sur la page Facebook, sur les réseaux
sociaux. Oui, il y a la page Facebook, les réseaux sociaux aussi.
Il y a toutes les infos à retrouver.
Oui, tout à fait.
Eh bien, merci beaucoup Esther.
Merci Robin.
Merci donc d'être venu nous parler des rêves indociles, c'est tout. Pour votre émission, l'association de la semaine, excellente journée à l'écoute des programmes de BPM.